pour ma part, je suis Fabien Didier Yenné. Je suis du réseau Afrique Survie Migration. C'est un réseau que nous sommes en train de mettre sur pied, qui est composé essentiellement des anciens migrants d'origine africaine, pas seulement subsaharien, qui se retrouvent aujourd'hui en Europe, un peu partout dans le monde, et qui sont quelque part aussi indignés par rapport au fait que chaque fois qu'il y a des rapports sur la migration, c'est toujours des chercheurs. Aujourd'hui, on s'est dit, en partant de chez nous, on a toujours été exclus. Voilà qu'on se retrouve dans des pays développés. D'aucuns parmi nous se retrouvent dans les plus grandes études. Je peux prendre l'exemple tout bête, tout de suite dans la salle. J'ai un camarade qui est en train de faire des photos. Au Maroc, on était clandestin. Aujourd'hui, il est doctorant à l'EHSS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et moi, j'étais clandestin au Maroc. Aujourd'hui, je suis à Paris 8. Il y a Fiston qui était avec moi au Maroc, qui est en Sciences Po à Grenoble. Donc aujourd'hui, on s'est dit, voilà, si hier on était clandestin, pourquoi pas créer quelque chose de nos jours. Nous-mêmes, on peut faire nos propres recherches. Nous-mêmes, on peut faire nos propres solutions. On peut proposer des solutions, que ce soit dans les pays d'accueil, que ce soit à nos pays d'origine. Je remercie personnellement aussi la FASTI, qui depuis un certain temps, on a essayé de voir comment ils se sont investis pour la migration maghrébine. L'expérience est aussi là. On voit bien comment ils donnent la parole aux associations maghrébines pour qu'ils s'expriment pour leurs droits, pour tous ceux qui sont défenseurs de droits humains. Et la FASTI qui aussi depuis un certain temps, depuis le dernier Forum social mondial en Tunisie, qui ne cesse chaque fois d'être en contact avec nous pour qu'on essaie de parler de la question des subsahariens au niveau du Maghreb. Parce que c'est aussi une question récurrente. Mais néanmoins, en Europe, on ne connaît pas. On ne sait pas que la plupart, presque 80% des subsahariens qu'on trouve en Europe, ou bien j'appelle les Noirs africains qui sont en Europe, la majorité parmi eux, ils passent par le Maghreb. Même avant d'entrer en Espagne ou en Italie, mais ils passent quand même par le Maghreb. Donc, mais je vais vous donner un petit travail, parce que mon intervention, vous allez voir des photos, et aussi, je vais vous donner un petit travail de lire. Cette photo, elle a été prise par Migre Europe. Et bien vrai, c'est pas notre travail, on n'est pas très experts. Je voulais d'abord situer le Maroc. Le Maroc, c'est comme vous voyez très bien sur cette carte, c'est en commençant, le Maroc, c'est comme vous voyez, il y a les deux enclaves, Ceuta et Melilla. C'est-à-dire Ceuta et Melilla, généralement on parle de Ceuta et Melilla, les gens, si tu n'es pas marocain, et parfois d'autres marocains n'arrivent même pas à comprendre qu'est-ce qui Ceuta et Melilla, c'est quoi. C'est des enclaves espagnoles qui se retrouvent dans le territoire marocain. C'est-à-dire, quand nous on a étudié, on savait que entre deux continents, l'Afrique et l'Europe, c'était séparé par la mer. Mais curieusement, au niveau du Maroc, on se retrouve dans une position où le territoire européen se retrouve dans le territoire africain. À la seule différence que pour traverser ce territoire, il y a une frontière qui est militarisée, comme vous voyez là. C'est-à-dire, c'est la Guardia Civile. Et ces militaires, comme vous les voyez très bien, voilà la frontière. Ces militaires ne sont pas là, comme disaient Hayat et Bachir, c'est pas pour la drogue. C'est-à-dire, la drogue, ça passe. La drogue, ça passe. Tous ces gens que vous voyez là, la drogue, ça passe. Il n'y a rien au Maroc que vous pouvez chercher. Bon, le côté que vous voyez ici, c'est le côté espagnol. Là où il y a la saleté, c'est le côté marocain. Donc, le jour que la drogue passe, il y a les mêmes gens, ça passe. Mais tous ces gens que vous voyez en tenue différente, avec des armes, c'est juste pour empêcher des subsahariens d'arriver en Europe. Donc, mon intervention, c'est survie. Pourquoi survie? Parce que c'est un mot, il est bien vrai, d'aucuns parmi vous peuvent nous dire survie, ça fait humanitaire, il y a une ONG qu'on appelle survie. Pour nous, dans notre logique, c'est qu'il n'y a pas de problème dans la migration si les gens, leurs droits sont respectés. La migration est un problème si déjà les droits des gens ne sont pas respectés. Au niveau du Maroc, c'est la survie. Donc ceux qui sont au niveau du Maroc essaient de survivre. Donc du coup, les migrants d'origine subsaharienne au Maroc sont très vulnérables à des degrés différents. Les moins vulnérables sont ceux qui bénéficient du soutien plus ou moins régulier de leurs familles, amis ou connaissances, parfois installés en Europe ou en Afrique. Ce sont généralement les premiers qui essaient de s'installer dans les grandes métropoles marocaines après un certain nombre d'échecs pour passer en Europe. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des soutiens. Ça peut être un cousin, ça peut être quelqu'un de la famille, à ce qu'il envoie régulièrement de l'argent. Donc, il a des possibilités aussi de continuer son voyage facilement. Parmi eux, on trouve des familles entières avec des enfants, parfois des anciens étudiants. Donc, ceux qui sont au Maroc, parfois, ça peut aussi être des anciens étudiants qui ne veulent plus retourner chez eux. D'aucuns réussissent tant bien que mal à se trouver des petits boulots, par exemple dans les centres d'appel, dans les secteurs agricoles, dans la construction, l'artisanat, les travaux domestiques, etc. Bien que corvéables, ils renoncent petit à petit à leur objectif d'immigration en Europe. Mais, depuis 1999, les autorités marocaines entravent leur installation en multipliant les arrestations et les chasses aux faciès et les actes racistes. C'est-à-dire, le Maroc préfère se passer pour un pays de transit qu'un pays d'immigration. Malgré le fait que vous avez étudié, vous avez fait 10 ans, vous avez passé 15 ans au Maroc, on ne tiendra jamais compte de ça. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais vous régulariser. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas les bienvenus. La question, c'est qu'il faudrait, comme Ayad a bien expliqué avec Bachir, avec Nomo, le Maroc, pour lui, c'est un business. Il faudrait que vous êtes là pour passer en Europe. Il faudrait que l'Europe sache que vous êtes là, vous allez l'envahir. Et de ce fait, parce qu'il y aura toutes les subventions. Donc, je ne veux pas aller trop loin. Ça, c'est des photos prises à Takadoum. C'est l'un des quartiers, Takadoum qui veut dire le plus peuplé de Rabat, Takadoum qui veut dire en arabe, voilà, progrès. Donc c'est Takadoum, c'est là où, c'est un quartier périphérique. Visiblement là, même ici en Europe, c'est beau. Là c'est beau, mais il faudrait voir Takadoum de tout près pour voir là où ces migrants vivent. Et peut-être il faudrait aussi que je rappelle quelque chose, dans nos interventions, dans notre réseau, on évite de présenter vraiment tout ce qui est trop souffrance. C'est-à-dire, ici en Europe, on aime quand on présente des migrants d'une manière très vulnérable, qui sont dans les forêts, sales, avec des habits et tout. Parce que là, ça, ce sont des migrants qui ont un peu de moyens. Nous, on préfère chercher des photos là où, malgré qu'ils vivent dans des difficultés, mais vous allez voir dans nos photos, on cherche quand même le bon côté, pas le côté qu'on voudrait leur coller à la peau, que voilà, c'est les gens qui n'ont rien à foutre, c'est les gens... Donc c'est pour ça que... Donc ça, c'est Takadoum. Ça, c'est trop près de Takadoum, comme vous voyez très bien. C'est les maisons, vous voyez, en jaune, en blanc, là. C'est là-bas qui, ceux qui ont des moyens, la première catégorie dont je vous parlais, quand la famille les soutient, ils peuvent se trouver des chambres. Ils peuvent se retrouver 15, 16 dans des chambres, 17, 20. Donc, on appelle ça ghetto, d'autres. Et c'est là aussi, il y a des chasses aux faciès, comme vous voyez. Chaque fois, comme... Il est bien vrai, on va arriver à la politique de régularisation. S'il y a des cas de décès, on trouve des corps parfois en bas, là, vous voyez, là, les ravins. Et quand la police arrive, on essaie aussi de fuir de ce côté pour aller du côté de Ennahda. Ça, c'est toujours forme d'intégration. Peu importe tout ce que vous pouvez faire. Par rapport à la population, aux jeunes, vous avez l'impression qu'il n'y a même pas un problème pour les migrants. Parce que vous pouvez jouer, ça se partage, parce que c'est des quartiers populaires. Mais le souci, c'est en jouant, comme vous voyez là, avec toute cette population, quand les fourgonnettes vont débarquer, la manière qu'on va vous attraper, la manière qu'on va vous dénigrer, vous chosifier, c'est de rappeler même à ceux qui sont hospitaliers que vous n'êtes pas les bienvenus. Et comme le Maroc, c'est un pays, entre guillemets, de droits de l'homme, la question, c'est qu'est-ce que cette population peut bien faire? Parce que certes, vous jouez au ballon là, et s'il arrive que les fourgonnettes qui débarquent, est-ce que ces jeunes qui jouent au ballon avec vous, ils peuvent dire non, mon voisin ne part pas, ou bien ils doivent seulement fermer la bouche? Parce qu'il y a un adage, j'aurais aimé si vous devriez les dire au Maroc, moi qui ai vécu 10 ans, c'est tout est toléré, mais rien n'est accepté. Ça, c'est dans la chambre, comment ça se passe par rapport à une chambre qui est ici en Europe. Il faudrait rappeler ici qu'au Maghreb en général, et au Maroc en particulier, la loi ne condamne pas les propos racistes ou les insultes. De même, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a refusé de louer son appartement à un migrant ou de le laisser monter dans un transport en commun. Dans les hôpitaux, par exemple, refuser de porter assistance à un subsaharien est monnaie courante. Les rares médecins qui acceptent de s'occuper des migrants le font par conscience morale. On peut donc dire sans ambiguïté que tous ces traitements inhumains, humiliants, chosifiants, contraints des subsahariens qui sont au Maghreb à revoir leur projet migratoire, prêts à s'installer au Maroc, ils finissent cependant par rêver de l'Europe, celle des droits humains. C'est-à-dire, vous êtes bien sûr au Maroc, vous avez 10 ans, vous voulez tout faire, mais on ne vous accorde pas, même les gens avec qui vous vivez, voilà, on vous chosifie comme ça chaque jour. Autant pour vous de se dire, je vais aller en guerre contre le grillage, parce que le grillage, c'est à deux pas. N'importe qui parmi nous le ferait. Que voilà, moi je vais vivre là, j'ai des enfants là, ça fait 10 ans, je n'ai pas d'identité là. À quoi ça sert de continuer, autant mieux jouer le rôle, de dire voilà, je vais aller en Europe. Donc, cette photo représente très bien ces grillages. D'un côté, vous voyez là, il y a les petites cages blancs. Ça, c'est le Maroc. Ça, c'est les militaires. Ça, c'est, comme vous voyez, à chaque 15 mètres, c'est un militaire marocain. Chaque 15 mètres. Comme vous voyez là, c'est des militaires marocains. Sans compter que ces baraques aussi en bleu, c'est des marocains. Mais de ce côté, c'est la guerre civile. Sa présence, ça, c'est le côté espagnol. Ça, c'est une guérite. C'est le grillage. Aujourd'hui, ça, c'est les anciennes photos de 2007. Ce grillage est passé de 3 mètres, comme vous voyez là, à 12 mètres. Il est parti à 12 mètres, il n'est plus à 3 mètres. Parce que, et non seulement ça à 12 mètres, mais ça a des barbelés au-dessus que vous ne pouvez pas... Voilà, c'est comme ça que c'est barricadé. C'est-à-dire, non seulement ça a des grillages au-dessus, ils sont arrangés pour que les doigts... Parce que quand on fait des tentatives, vous pouvez accrocher le grillage pour monter. Donc, ils ont mis des barbelés pour que si vous accrochez les pieds, vous ne pouvez plus monter, vous ne pouvez plus grimper. Le deuxième groupe, comme je parlais de deux groupes, ceux qui sont aidés par les familles et ceux qui ne sont pas aidés. Le deuxième groupe est plus vulnérable, sans aide de la part de leurs proches, parfois réfugiés, ils sont obligés d'aller vivre dans les forêts marocaines comme des animaux, avec l'espoir de franchir au plus vite les grillages qui enserrent les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Ceci représente moins d'un tiers des migrants subsahariens qui vivent au Maroc. Ils sont aussi victimes d'arrestations récurrentes quand ils sont trop fatigués par les tentatives vaines de passage, de grillage, par le matraquage et le tabassage par la Guardia civile espagnole ou les gardes auxiliaires marocaines, par les refoulements vers la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Ils se réfugient dans la faculté de Oujda ou dans les quartiers périphériques de Rabat, Takadoum, J5, J3, Akari, Kouaz, Kamra, Fadena, Youssoufia, etc. Ils sont confinés par dizaines dans des chambres ou des maisons insalubres qu'ils appellent eux-mêmes les ghettos. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas de moyens. Quand ils arrivent au Maroc, la seule chose, c'est d'aller vivre dans la forêt. Parce que dans la forêt, vous ne payez pas l'eau. Dans la forêt, vous... Voilà. C'est... Vous ne payez pas d'électricité. Dans la forêt, la seule chose pour vous, voilà, c'est de fuir le policier qui viendra vous attraper. Comme vous voyez, et les forêts, ça c'est la forêt de Oujda. Ça c'est une photo. C'est-à-dire la ville est trop retirée, comme vous voyez là. La forêt, au début, les migrants étaient confinés à la faculté parce qu'il y avait une solidarité des étudiants. Mais depuis un certain temps, politiquement, le recteur de l'université qui a été menacé, des étudiants qui ont été menacés, ce qui fait que ils ont commencé aussi, quand il y a des arrestations, des étudiants manifestaient, mais maintenant ils ne manifestaient plus. Donc les migrants étaient obligés de sortir de la faculté maintenant pour aller vivre un peu plus loin. C'est-à-dire, au moins quand vous êtes dans la forêt, vous allez voir comment les fourgonnettes vont venir, les camions vont venir, à moins qu'ils vous surprennent à 3h, 4h, le temps aussi pour vous de commencer à fuir, de fuir. Ça, comme je vous disais, on refuse de montrer les ghettos style trop misérabiliste. Ça, c'est les plus beaux ghettos quand moi j'étais là, parce que maintenant ça n'existe même plus. Comme vous voyez là, parce que celui-ci, tu as le temps de le construire, tu le couvres très bien, tu peux bien dormir. Nous, on préfère quand même encore cet aspect par rapport à la dignité de l'homme que de présenter ces images que je vois, voilà, le pain, la famine, voilà. Par rapport à la dignité de l'homme, nous, on préfère encore montrer au moins qu'ici, ces hommes, tant bien que mal, ils essaient de vivre, ils essaient de, pas vraiment ce qu'on veut présenter comme les moins que rien. Donc voilà, les ghettos, si on leur donnait la possibilité, mais j'explique que ces ghettos, de nos jours, voilà, la police qui passe le mardi et le jeudi, on brûle, donc tu n'as pas le temps de construire. Ça, c'est la frontière avec Oujda. Donc on les jette de l'autre côté de l'Algérie et pour qu'ils reviennent à Oujda ou bien aller vers Rabat, ils empruntent les rails. Ça, c'est parce qu'il y a un train, c'est leur point de repère, c'est pas des gens. Vous savez, quand vous êtes en migration dans des pays comme le Maroc, vous perdez le repère. C'est-à-dire, vous n'avez pas de montre, vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Vos seuls repères au Maroc, c'est les électricités ou bien les rails. Le jour se lève, vous cherchez de quoi manger. La nuit, vous cherchez là où vous allez vous coucher. Vous ne savez si c'est jeudi, si c'est samedi, si c'est dimanche. Vous êtes comme ça. Et moi, je l'ai vécu pendant 8 ans au Maroc. J'ai dit 8 ans, je savais quelle année j'étais. Parce que voilà, il n'y a pas de repère. Vous êtes comme ça, comme les animaux. Ça, c'est à la frontière, là où pas très loin de avec l'Algérie. Ça, c'est un ghetto juste à côté de Oujda. Un ghetto, pourquoi je dis ghetto? Parce que c'est là, ils se cachent sous ce pont pour emprunter le train. Et ils n'aiment pas qu'on montre vraiment cette photo parce qu'il y a pas mal de camarades qui ont perdu la ville en voulant emprunter le train. C'est-à-dire à 10 mètres d'ici, il y a une usine de cimenterie. Ce qui fait que quand le train va à l'usine de cimenterie, le train, c'est pas comme une voiture pour tourner. Donc, le train qui vient de Rabat, il va s'arrêter pour qu'on serre les rails pour aller dans l'usine de cimenterie. Et c'est là où ils sortent de ce trou pour grimper dans le train. Et c'est comme ça. Donc, il y a eu pas mal de cas de décès, des gens. Pour nous, aujourd'hui, qui présentons ça, c'est pas ça. On n'a pas d'autre choix. Mais pour eux, même comme on les défend, c'est comme si on expose toutes les... C'est leur moyen de protection. Parce que quand on explique aussi ça, c'est ce qu'on a vu dans la migration, on le fait comme ça, on se dit, oui, c'est des militants, mais parfois les militants n'ont pas assez de moyens. Ce qui se passe le plus, c'est des répressions. Parce que le gouvernement utilise, ah bon, on ne savait pas, ça vient au contraire contre une répression. Donc voilà à quoi ça ressemble un ghetto après une semaine, après le passage. Il est important de savoir que depuis le début des années 2000 et jusqu'au 1er janvier 2014, date de l'annonce officielle de la nouvelle politique de régularisation des personnes en migration irrégulière au Maroc, le gouvernement a toujours fait la sourde oreille sur les conditions de vie des migrants subsahariens sur son territoire. La raison est simple. Le Maroc préfère passer pour un pays de transit que pour une destination. Il est connu de tous que la migration subsaharienne est une bonne rente pour le Maroc. Grâce à cette marchandise divine, le Maroc gagne des grosses subventions en provenance de l'Union européenne et négocie des accords de partenariat économique avec elle, en passant pour le gendarme de l'Europe. En bon gendarme, le Maroc contrôle alors tous ceux qui veulent entrer dans le domicile. Aujourd'hui, on en parle déjà de réadmettre au Maroc toutes les personnes expulsées du territoire européen. C'est aussi le dessus même de la régularisation, même comme aujourd'hui on ne veut pas qu'on en parle, on applaudit. La régularisation, moi je profite pour brosser, elle est claire, tout ce qu'on va régulariser au Maroc sont fichés en Europe. Mais on n'en parle pas de ça. C'est-à-dire, quand ils auront les titres de séjour, il faut oublier le côté européen. Alors, même si tu viens en Europe après 10 ans, quand tu auras un petit pépin, on va voir que tu étais passé par le Maroc. Nichen, on n'a plus besoin de ton pays, que ton pays ait signé des accords ou pas, on renvoie au Maroc. Donc, c'est pour ça, c'est les régularisations. Je vais arriver là, vous allez voir en moins de 2 mois, 3 semaines, chiffre officiel, 4 500 retraits des fiches. Mais il n'y a eu que 910 dépôts. Plus, nous aussi, il y a une certaine communication entre les migrants. Mais le gouvernement, ils se sont félicités que, en moins de 3 semaines, on a eu 4 500 retraits des fiches. Comme j'ai dit, nous, les subsahariens, ils ne peuvent pas réfléchir. Mais 4 500 fiches, tout le monde peut retirer une fiche. Mais 910 seulement ont déposé les dossiers. Bon, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il faut éviter au maximum de montrer que cette rente ou cette marchandise, les migrants subsahariens, je vais dire, est la bienvenue au Maroc. D'où le soutien implicite des actes à caractère raciste à l'égard des subsahariens. Parce que oui, voilà, il faut, comme je vous disais, il faut démontrer qu'ils ne sont pas les bienvenus. Il faut même pas ménager quand on les arrête. Il faut démontrer à tout le monde que voilà, ils sont moins que rien. C'est-à-dire, ce ne sont pas des humains, ils n'ont droit à rien, voilà. Le Maroc, vous êtes au-dessus d'eux, même si vous les soutenez, c'est le gouvernement qui décide, c'est comme ça, au niveau du Maroc. Voilà Les deux, j'ai rapproché l'image, les trois guérites avec un garde-corps, comme on les appelle, le Maxime. Ça, c'est un ghetto du côté de Melilla. Parce que je voulais aussi démontrer, malheureusement, qu'on n'a pas de compatriotes qui sont là ce soir. Dommage que toujours, quand on parle de la migration subsaharienne, nous, on n'est pas toujours là. On montre que la migration ne s'arrête pas seulement au Maroc, même du côté de... Après la traversée de ces grillages, voilà là où ils sont obligés de vivre pour éviter les expulsions. Parce qu'au niveau de Melilla, ils arrivent dans les camps, les cities, à 4 heures du matin, on bloque les portes, après on vous prend, on vous balance chez vous. Donc vous êtes aussi obligés, malgré qu'il y a des centres de... comme ils appellent ça. Mais ce qui est aussi curieux, c'est que dans les camps que Migre Europe, j'ai posé cette question à Migre Europe dernièrement, les camps comme centre de rétention, Migre Europe ne reconnaît pas Ceuta et Melilla comme les centres de rétention. Pourtant, c'est les centres de rétention et les gens font plus de 2 ans là-bas. Donc, j'ai vu, mais dans les pas que je critique, mais bon, moi, ça, j'hallucine vraiment dans le travail de recherche, d'où aussi aujourd'hui, le côté nous-mêmes qui avons émigré pour dire non, on ne peut pas continuer à tolérer des choses comme ça, c'est pas possible. Et aussi, le fait que toutes ces flèches migratoires qu'on démontre rien que du Maghreb vers l'Europe, c'est comme s'il n'y a pas de flèches migratoires dans le sens contraire. Comme si il n'y a pas de Maghrébins qui émigrent vers l'Afrique subsaharienne, des Marocains au Sénégal, des Camerounais, les Marocains au Gabon, des Camerounais, je ne sais pas où, au Mali et tout. C'est ça, notre souci aujourd'hui, notre réseau de dire, c'est pas qu'on est contre Migre Europe, où on a beaucoup de respect pour tous ces grands chercheurs, avec beaucoup d'argent qu'ils ont, on a beaucoup de respect avec tout ça, mais c'est de dire, l'Afrique survit, migration, nous-mêmes, on a un autre regard. Nous, on peut penser, on peut dire, c'est la pédagogie de la migration. Nous, on peut enseigner la migration d'une autre manière aujourd'hui. C'est aussi ça, l'objectif de notre réseau. Ça, c'est... Vous voyez, Melilla, le Maroc soutient un peu en amont. C'est-à-dire, Melilla, comme Ceuta, ils sont un peu au-dessus. Ce qui fait que quand il pleut, il y a beaucoup d'eau d'écoulement, comme ils sont, les villes sont au-dessus, et il y a ces buses. Ces buses, ça permet à l'eau d'aller en mer. Donc on est obligé aujourd'hui, comme vous avez vu la frontière, tellement elle est militarisée, et que la pluie, parfois on n'a pas le contrôle. Quand il commence à pleuvoir, on les demande, s'ils n'ouvrent pas, c'est leur problème. Parce que ça va boucher. Parce que la ville, on ne sait pas, mais je n'ai pas mis les photos, et il y a eu ça en 2010. Ils n'ont pas ouvert et ça a fait péter le grillage. Oui, ça a fait péter le grillage et le grillage est tombé. Donc, ils sont obligés d'ouvrir et là, il faut être les bons nageurs dans l'eau de pluie. Tu te retrouves du côté... À contre-sens. Donc, voilà à peu près comment la frontière est contrôlée. C'est-à-dire avec les caméras qu'on dit. Et ça, c'est plus, aujourd'hui, c'est plus avec les nouveaux financements de Frontex et Roasus, c'est plus grave. Hein. Les caméras ultraviolets, ultrasensibles, à dire, ils sont comme ça, ils voient, vous voyez très bien comment ils regardent la mer. Ils sont dans. C'est pas pareil avec le militaire marocain. Le militaire marocain, il est sous le froid comme toi. Mais voilà là où le militaire espagnol, lui, travaille. Il a sa télévision, il n'a pas besoin de bouger. Il est là tranquille, il a l'ordinateur, il voit là où tu es caché, il appelle le militaire marocain, il dit « Ah, mais Mazman, allez, il y a quelqu'un qui est sous les arbres. » Donc voilà comment ça se passe. Vous-même, vous voyez comment la caméra, elle voit même en bas de l'eau, on peut même compter les poissons. À plus forte raison, un humain qui veut passer là. Donc, quelques exemples parmi les cas les plus, je parlais du racisme tout à l'heure, d'autres vont te dire non, le racisme n'existe pas au Maroc, parce que c'est aussi, on voit cette question qui divise même des militants de droit au niveau du Maroc. Quand on dit, il y a une question de racisme. Si l'Allemagne a changé, c'est parce qu'ils ont fait une rétrospection. On ne dit pas que nous aussi, on n'est pas racistes, mais au niveau du Maroc, c'est grave, ça divise. D'autres te disent, non, vous ne pouvez pas dire ça, on n'est pas raciste. Mais voilà l'exemple. Quelques 5 exemples que j'ai cités. Le 9 mars 2013, Clément Cameron, de 29 ans, et Achille, son ami de 22 ans, se font froidement abattre par la garde auxiliaire marocaine dans la ville de Beninsa. On les a tués froidement. Le 21 mars 2013, Koulibaly, un jeune malien de 31 ans, s'est fait mortellement poignardé devant une épicerie à Takadoum, Rabat. Il succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Le 1er août 2013, une jeune Ivoirienne du nom de Tatiana s'est fait violent par quatre policiers à Tanger de 19h jusqu'à minuit, puis elle est abandonnée dans un bosquet. Dieu merci, on ne l'a pas trouvée morte. Le 6 août 2013, Toussaint Nyankunzu, un enseignant congolais, père de deux enfants, s'est fait assassiner par des policiers qui l'éjectaient d'une voiture en pleine vitesse. Ça rejoint ce que Bachir disait. Dans une fourgonnette, on te met, on fait le tour, on tabasse, après on balance. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Donc on ne l'a pas mis dans un poste, pas d'empreinte qu'il était dans un poste policier, rien. Le 26 août 2013, Ismaël Faye, un jeune Sénégalais de 28 ans, est poignardé et meurt quelques heures plus tard à la gare routière de Rabat. Je peux raconter, il achète un ticket pour aller à Fès, c'est un musulman. Il va à Fès, c'est une ville de pèlerinage. Il achète son ticket, ticket de place 28. Il s'assoit, il y a une jeune mamzelle marocaine, place 27. Le copain qui arrive, qui supporte mal que le 28 soit noir. Il dit, pas gentiment, parce que s'il disait gentiment même à Ismaël Faye que monsieur, est-ce qu'on peut changer de place? Il parle en arabe, pourtant Ismaël Faye, lui, il comprend arabe. Il demande, qu'est-ce que ce noir fait à côté de toi? La fille qui dit, il faut lui demander si vous pouvez changer de place. Il revient voir Ismaël, il lui dit que bon, comme tu m'as d'abord appelé le jeune noir, moi je ne te donne plus la place. Intercation, le jeune qui est descendu, Ismaël Faye lui est resté tranquille, sans souci. Le gars est revenu avec le couteau, trois coups de poignard. Après les enquêtes, on se rend compte que c'est un militaire. C'était un militaire. Le 10 septembre 2013, Moussa Seck, un Sénégalais de 32 ans, est poussé du 4e étage de l'immeuble par la police marocaine. Tanger, 4e étage. Un gars qui a l'habitude de dire aux gars, il ne faut pas perdre espoir et tout, mais ce jour, il y a une rafle aux faciès. Mais on ne comprend pas comment Moussa Seck, avec les policiers dans sa chambre, on l'a vu planer en l'air, 4e étage, décédé. Il n'est pas le seul. Et le 5 décembre 2013, Cédric, un Camerounais, subit le même sort. À Tanger, pareil. C'est la nouvelle technique. Et c'est facile de démontrer que le migrant voulait fuir les militaires. Ouais, c'est facile. Comme ils sont bêtes, il aurait dû accepter qu'on l'arrête, sans problème. Mais tellement ils sont bêtes que depuis un certain temps, c'est comme ça qu'ils succombent eux tous. Quand les militaires sont derrière eux, voilà, 4e étage, ils planent, voilà, comme des oiseaux. Comment expliquer que dans tous ces meurtres, il n'y ait pas le moindre dépôt de plainte, que la justice ne soit jamais saisie, que les coupables ne soient jamais punis? Et enfin, pour assainir l'image du Maroc, qui se détériore aux yeux de ses pairs africains, le roi Mohamed VI a décidé de lancer une campagne de régularisation des migrants subsahariens au Maroc. Nous demandons si cette décision n'est pas plus une régularisation de l'image du Maroc que des subsahariens en situation régulière, car les conditions à remplir sont telles qu'aucun migrant, à part les réfugiés mis à part, ainsi que les parents d'enfants marocains, ne saurait les remplir. Parce que ceux qui ont suivi cette actualité au niveau du Maroc, on dit qu'on va régulariser les gens. Aucun migrant ne peut être régularisé si ce n'est des réfugiés. Et pour finir, pour rejoindre aussi Bachir, mardi, il y a des migrants qui seront jugés au tribunal militaire. Et il y a une mobilisation qu'on est en train de faire, que le gardien m'a lancée, à Rabat, au tribunal militaire. Ils sont accusés que, oui, lors d'une rafle, ils avaient jeté des pierres à la police qui les a interpellés et il y a un policier qui a succombé. Donc voilà la situation du Maroc. Elle est telle en sorte qu'aujourd'hui, c'est la campagne médiatique. On régularise le Maroc, premier pays en Afrique, premier pays au Maghreb. C'est une régularisation, décision exceptionnelle. Toutes les associations sont derrière le roi. On n'a jamais vu ça en Afrique. Félicitations. Voilà la situation. Merci.